Donc, je vais donner comme titre Semblant d'objet. J'ai choisi de suivre un fil qui est de considérer la fonction de l'objet A dans le transfert et d'extraire quelques conséquences. Cela suppose qu'on examine la différence qui consiste à aborder le transfert pas uniquement comme un déplacement d'amour et de saisir la différence consistant à aborder la clinique analytique à partir du maniement de l'objet A. Donc ça fait vite, c'est bien parce que c'est la suite de ce que disait Jean-Jacques. Le programme est vaste, je me limiterai à faire quelques remarques. Par rapport à l'objet A, partons de la définition de Lacan qui le pose à partir du trait de la coupure, donc partie du corps qui désigne les objets partiels, mamelon, cibale, auquel il ajoute la voix, le regard, parfois aussi le rien. La question que je me suis posée est que Lacan se sert de cette conception pour indiquer la place de l'analyste comme semblant d'objet. Notion qui est complexe, car en même temps, Lacan affirme que l'analyste ne fait pas semblant. Aussi, nous ne sommes même pas semblants. Nous sommes à l'occasion, ce qui peut en occuper la place, et y faire régner quoi l'objet. Disons d'emblée que la définition du A comme semblant d'être, donc dans le séminaire encore, désigne l'analyste. Qu'est-ce que cela change par rapport au mathème du transfert que Lacan pose dans le psychanalyste de l'école, où il ordonne la cure en fonction de sa conception sur le sujet supposé savoir? Tout d'abord, posons une première différence. Le semblant d'objet A concerne la position exigée de l'analyste, soit de promouvoir un discours où le A est à la place du semblant, tandis que le sujet supposé savoir ne concerne pas de façon directe l'analyste, puisque c'est ce qui opère à partir d'une position tierce entre l'analyste et l'analysant. Qu'il y ait une différence n'implique pas qu'il s'agit des formulations qui s'opposent. Donc, il y a un intérêt à reprendre les deux formulations de Lacan. C'est de sujet supposé savoir, c'est des semblants de A pour mieux préciser leur articulation. Comment entendre que l'analyste ne fait pas semblant, mais qu'il est à la place du semblant d'objet A? La question porte sur le maniement du transfert. Une série de remarques de Lacan sont dans ces sens convergentes. Ainsi, on remarque que Lacan se sert logiquement du terme du maniement par rapport au transfert quand il énonce que le transfert est une relation liée essentiellement à la question du temps et à son maniement dans la position de l'inconscient. Puis, quand il aborde la question cruciale du maniement de l'angoisse. Enfin, quand il aborde la question du maniement de l'objet A. La première formulation, le transfert comme lié au temps, prépare les autres, car c'est ce qui introduit la question du temps dans l'analyse et l'objet A. Lacan est précis quand il met la fonction de la hâte en rapport à l'objet A. Mais aussi le fil qu'il suit dans le séminaire de l'angoisse et que l'objet A fait rentrer le sujet dans la temporalité. Donc, maniement de l'angoisse ou maniement de l'objet ont une zone qui leur est commune, car l'angoisse suppose l'émergence de l'objet A. Dès lors, il faut distinguer deux dimensions dans l'analyste semblant d'objet A. Une dimension qui concerne l'objet du fantasme du sujet. Cela veut dire que l'analyste s'éloge à la place de l'objet du fantasme du sujet pour se faire la cause de son désir. L'analysant cède l'objet à l'analyste le temps de la cure. L'autre dimension est l'objet A comme ce qui concentre la jouissance du sujet. C'est net dans le séminaire d'un autre à l'autre. L'objet A comme lieu de capture de la jouissance. Et la proposition de Lacan sur la fin de l'analyse comme évacuation de l'objet A en tant qu'il représente l'aberrance de la vérité rejetée. Et Lacan ajoute que cet objet évacué que lui-même l'analyste va représenter. Dans le même sens, dans le compte-rendu de l'acte analytique, il définit l'objet A comme reste de la chose chue, en ajoutant que le psychanalyste s'est fait produire de l'objet A. Autrement dit, la position de l'analyste est faite substantiellement de l'objet A. L'analyste qui vient à la place de l'objet du fantasme, c'est la dimension transférentielle. Cela veut dire que l'analyste est un partenaire qui s'inscrit dans la série d'objets érotiques du sujet au sens d'objets qui captent la libido du sujet. Cela soulève une question. Si on admet que le fantasme se construit dans la cure, on admet par conséquence qu'à l'entrée en analyse, on ne le saisit pas forcément. Doit-on préserver l'expression semblant d'objet A au cas où on est assuré sur l'usage du fantasme du sujet? Il me semble qu'il s'agit juste d'une des dimensions de la formulation des semblants d'objet A. La deuxième dimension, même si elle a un lien avec le fantasme, souligne essentiellement le rapport du sujet à l'objet sans la médiation du fantasme. Qu'est-ce que le rapport à l'objet sans le fantasme? C'est l'angoisse, par exemple. C'est d'ailleurs la raison de l'angoisse de transfert, écrite par le discours analytique. Si on regarde la partie supérieure du discours analytique, ça écrit A flèche. S barré, le A écrit la cause du désir, mais le A indique aussi l'émergence de l'objet qui provoque l'angoisse du sujet. On peut trouver une connexion entre la proposition du sujet supposé savoir et le semblant d'objet dans l'écriture du discours analytique, car dans la partie gauche, l'objet A tient sa place dominante du fait que le savoir fonctionne comme support de l'objet. Or, le savoir en question n'est pas le savoir dont l'analyste dispose. Lacan a toujours maintenu l'idée que pour considérer chaque cas comme nouveau, cela suppose que le savoir préalable serve à s'orienter sur la structure, mais en vue de la production d'un nouveau savoir. On peut soutenir que le semblant d'objet A ne tient sa place que si son point d'appui est celui d'une supposition de savoir. Certes, on peut dire que pour qu'il y ait supposition de savoir, il faut que le fantasme soit impliqué. La supposition de savoir nécessite en effet la participation du fantasme. Remarquons à partir de là une distinction. Semblant d'objet A désigne le fait que l'analyste s'éloge, comme je le dis, à la place de l'objet A de l'analysant, mais aussi que c'est à partir du semblant d'objet que s'est construit le fantasme. C'est cette perspective que j'ai privilégiée. Quel est l'intérêt de le souligner? Il me semble qu'elle répond logiquement aux trois indications que j'ai données auparavant, à savoir celle du transfert comme lié au temps, celle du maniement de l'angoisse, celle du maniement de l'objet A. Au fond, ces trois indications de Lacan démontrent que la formule des semblants d'objet A complète celle des sujets supposés savoir. Le sujet supposé savoir indique la condition de possibilité d'une analyse. Le semblant d'objet A est davantage ce qui est requis de l'analyste. Ainsi, le semblant d'objet A peut à l'occasion être la cause de la production du sujet supposé savoir. Quelques conséquences pour l'analyse. Si on retient que le semblant d'objet A renvoie seulement à la place de l'analyste en tant qu'il s'éloge dans le fantasme du sujet, nécessairement la conception qu'on doit se faire de la formulation des maniements de l'objet A est qu'on procède à un maniement du transfert en vue de se faire identique à A et de s'offrir comme point de mire à la place de la cause du désir pour l'analysant. Autre chose est si on considère que le semblant d'objet A inclut la dimension de l'objet qu'on plus de jouir, ce qui fait de l'analyse le lieu d'une supposition sur la jouissance, Je développe ce point. La supposition de savoir est toujours supposition de savoir sur la jouissance. Qu'on la compose au terme d'une analyse, l'analysant accède à un savoir-faire avec son symptôme, qu'est-ce que c'est d'autre qu'un savoir-faire avec sa propre jouissance? Donc le semblant d'objet a encore, selon moi, la dimension de se loger dans le fantasme de l'autre, mais également celle d'un objet dont on se sert, le temps qu'il faut pour obtenir un savoir sur la jouissance afin d'accéder à une invention concernant le savoir-faire sur la jouissance. On pourrait encore se servir d'un autre exemple. Quand Lacan se réfère dans le texte Les Taudis au devenir de l'analyste à la fin de l'expérience, il reprend la notion de transfert pour objecter à la notion qu'il existe une liquidation du transfert concomitante à la chute du sujet supposé savoir. Si l'analyse prend son départ dans l'institution du sujet supposé savoir, sa conclusion ne coïncide pas avec sa destitution. Lacan est explicite. Au-delà de la chute de la supposition de savoir, il y a l'analyste comme objet. Deux options se présentent à nous. La première serait que l'analyste devient objet uniquement à partir du moment où s'est produite la chute du sujet supposé savoir. Cette option n'est pas à exclure, car on perçoit que plus on s'approche du terme de l'expérience, moins il est question des demandes de déchiffrage de l'inconscient, et plus il y a une demande implicite qui concerne l'analyste juste comme partenaire, même si ce n'est pas un sujet partenaire. La deuxième option serait que l'analyste, tout au long de la cure, est à la place d'objet, au sens d'une coupure dans le temps et dans l'espace qui localise une jouissance. C'est ce qui définit l'objet A comme plus de jouir. Je trouve que cette deuxième option permet d'élucider ce que Lacan disait sur le maniement de l'objet A, en ajoutant que ce n'est pas de son séminaire qu'on pouvait extraire ce savoir-faire. Autrement dit, c'est un maniement qui relève de la propre expérience analytique. Les maniements de l'objet ne concernent pas uniquement la phase finale de l'analyse, ce temps que Lacan a défini comme deuil de l'objet. Si on est rigoureux, il faudrait appliquer ici à cette phrase sur le deuil de l'objet ce que Lacan affirme sur le deuil dans le séminaire de l'angoisse, à savoir qu'on n'est pas en deuil pour n'importe quelle perte d'objet, mais seulement pour celui pour qui on était sa castration. Alors évidemment, le deuil de l'analysant concerne la séparation avec l'analyste, est un deuil transférentiel, soit c'est produit dans la cure, et l'effet du fantasme de l'analysant concernant pas seulement la place de l'analyste occupé pour lui, mais aussi celle que l'analysant croyait occupée pour l'analyste. Or, il faut remarquer que là, Lacan évoque que l'analyste prend fonction à se situer du semblant d'objet A, puis il aborde la phase finale de l'analyse, celle du deuil transférentiel qui survient quand l'analysant a enfin réduit l'analyste à être objet A. Il s'ensuit le temps du deuil de l'objet. On déduit donc que l'analyse fait trou dans les semblants du sujet, puis fait en sorte que se dévoile les semblants de l'objet A qu'incarnait l'analyste. Or, ce que Lacan pose, c'est que ce temps de deuil, l'analyste continue à causer le désir. Donc, il y a un transfert au-delà du semblant. C'est une dimension essentielle. L'analyste soutient cette place jusqu'au moment où s'est produit la chute de l'objet pour le sujet. L'analyste, comme des êtres, est l'effet de cette chute. Je trouve que c'est à cette condition, soit avoir fait de l'analyse, pas seulement un lieu de déchiffrement, mais les lieux où la jouissance s'élabore afin de produire un savoir-faire sur la jouissance qu'il est possible de s'extraire comme analyste d'une possible interférence du propre inconscient au moment où le fantasme d'un analysant peut résonner avec le propre fantasme. On sait que souvent cela donne lieu à des manifestations symptomatiques de l'analyste, comme angoisse et acting out, et donc ouvre à un ratage de l'acte analytique. Je pense donc que la véritable vérification du désir de l'analyste nécessite la démonstration d'un savoir-faire avec la propre jouissance comme effet de la traversée de l'épreuve des jouissances d'une analyse. Je termine. C'est là, il me semble, qu'il sera possible pour l'analyste de faire le juste silence, celui que Lacan appelait « semblant des déchets ».